de l'Église, la page 800. Chapitre 2, et on va lire à partir du verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'Église? Est-ce que vous aimez l'Église? À quoi est-ce que vous pensez quand on évoque, quand on dit le mot « Église » Alors, sans doute, ça dépendra un peu de votre expérience de l'Église. Ça dépendra un peu de votre compréhension de ce que c'est l'Église, ce que la Bible en dit exactement. Alors, c'est sûr que notre bâtiment d'église est plutôt fonctionnel, n'est-ce pas? C'est une salle polyvalente, il n'y a pas énormément de décoration. C'est un ancien laboratoire où on développait des photos dans le temps. Et ce bâtiment n'a rien à voir avec la belle église catholique sur la place du marché à la Garenne-Colombes. Ce bâtiment n'a rien à voir avec la cathédrale de Notre-Dame ou de Saint-Sulpice. Notre bâtiment n'a rien de leur plafond élevé, leur voûte, leur portique sculpté ou leur sens d'esthétique, le théâtre de la cérémonie non plus. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de bougie. Et c'est vrai que notre bâtiment fait figure de cousin pauvre, n'est-ce pas? Et pour certains, peut-être la comparaison fait que ce bâtiment a l'air minable et peut-être ils pensent que ce qui est dit est donc minable, que forcément le message est aussi faible, avec peu de profondeur. Et l'Église, de manière générale, fait figure de cousin pauvre face à l'idéologie religieuse régnante de notre État séculier qui prêche que la foi et donc les églises ne doivent pas avoir pignon sur rue quant aux idées des débats de société. L'Église doit se taire, se mettre en retrait, pour que les valeurs de l'État soient centrales sur la place publique. Et face à une telle pensée envahissante, je pense qu'on peut avoir un peu honte de l'Église, un peu honte de la faiblesse de nos moyens. Ça peut faire un peu honte de dire qu'on va à l'Église, qu'on écoute ce que l'Église dit, que nos consciences sont liées d'abord et avant tout par ce que la Bible dit, et non pas par ce que l'État nous dit. Et même ceux qui fréquentent l'Église, peut-être même assidûment, peuvent parfois avoir une image négative de l'Église. C'est juste quelque chose à supporter. Faussement, certains pensent que ça serait plus facile de mener la vie chrétienne sans nos frères et sœurs, peut-être ces frères et sœurs qui nous gênent de temps en temps, sans ces pasteurs et anciens qui ont pour dada la Bible, ou peut-être la bienséance, l'ordre dans les cultes, les chants bien choisis avec beaucoup de doctrine dedans. La vie chrétienne serait peut-être juste plus facile entre amis chrétiens de la même sensibilité, ou peut-être en association chrétienne d'évangélisation avec des amis qui ont la même longueur d'onde. Et du coup, on a peut-être un peu honte de l'église locale. On respecte facilement, ou on claque la porte dès qu'une décision est prise qui ne va pas dans notre sens, ou on vient juste quand ça nous arrange. On se dit l'essentiel, c'est quand même ma foi. L'église, elle est au mieux un accessoire. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, veut que nous pensions autrement ce matin. Il veut qu'on voit qu'une telle attitude est vraiment à côté de la plaque. Car l'Église, et donc aussi nos petites églises si faibles, l'Église est vraiment au centre du plan de Dieu pour sa gloire parmi les nations. Le Saint-Esprit qui a inspiré cette lettre de Pierre, venu parler ce matin de l'Église universelle, mais de notre église locale à la Garenne-Colombe aussi. Il veut que nous comprenions à la fois la nature époustouflante de l'église et aussi sa vocation glorieuse. Alors, s'il veut que nous comprenions ces choses, ce n'est pas juste pour nous donner un cours sur l'église. Mais on voit dans cette épître que le but de Pierre, c'est que nous tenions bon dans la foi jusqu'à la fin, qu'on persévère dans l'évangile. Et ça, dans un contexte de souffrance. Il y a des choses, parfois, la vie chrétienne n'est pas facile, on l'a évoqué ce matin. Et Pierre veut qu'on continue jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. Nous avons besoin de comprendre la nature de l'Église et la vocation de l'Église pour que nous restions accrochés à Jésus jusqu'à la fin et pour que nous vivions pour lui dans la fidélité. Parce que si on méprise l'Église, on aura bien du mal à faire ça. C'est ce qu'on va voir. On aura bien du mal à vivre ce pourquoi Dieu nous a créés et ce pourquoi Dieu nous a recréés, sauvés, rachetés. Alors, il y a 2 semaines, Alex nous a parlé de comment l'espérance née d'une nouvelle relation avec le Père nous apprend, nous exhorte à imiter notre bon Père Céleste, à imiter sa sainteté. L'apôtre Pierre nous parlait de notre relation avec Dieu. Et ensuite, dans la semaine dernière, dans le passage d'avant, nous avons vu comment notre espérance en Dieu, née de la parole, alimentée de la parole, semaine après semaine, nous conduit, nous exhorte à un amour sincère, un amour fraternel sincère. Pierre nous a parlé de comment vivre en tant qu'Église. Et ce matin, dans le passage suivant, Pierre nous parle de la nature et de la vocation de l'Église pour nous aider à vivre pour Dieu dans le monde, dans la société. Donc nous avons besoin de comprendre qui nous sommes en tant qu'Église, ce que Dieu a fait, la nature, la vocation de l'Église, afin de vivre dans la société d'une manière qui lui rend gloire. Donc voici notre 2 points ce matin, la nature de l'Église, la vocation de l'Église. Et Pierre nous explique ça au verset 4 et 5. Là, on voit un peu en miniature ce que Pierre va développer par la suite dans les versets 6 à 10. Donc on va relire les versets 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier, ou c'est peut-être plutôt, vous êtes en train d'être édifié, pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors on voit que la nature de l'Église est très lié à Jésus-Christ lui-même, cette pierre vivante. Et construite sur lui, nous sommes des pierres vivantes et nous formons un temple. Voilà la nature de l'Église. Et la vocation est une vocation glorieuse. Nous sommes des prêtres qui offrent des sacrifices spirituels que Dieu agrée par Jésus-Christ. Donc, notre vocation, notre mission en tant qu'Église, c'est de rendre gloire à Dieu. Nous sommes des adorateurs. Alors, on va voir ça en plus de détails, pour que nous comprenions bien la nature époustouflante de l'Église. Et ça, pour que nous puissions remplir la vocation de l'Église. La nature de l'Église. Nous sommes fondamentalement le peuple de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Pierre nous dit tout de suite au verset 4. Nous sommes ceux qui sont venus, nous sommes ceux qui continuent de venir sans cesse à Jésus-Christ. L'Église est son peuple. On vit par Jésus, on vit de Jésus. Jésus-Christ est en quelque sorte notre obsession permanente, glorieuse. Nous avons goûté à sa bonté, c'est ce qu'on a vu la fois dernière au verset 3. On a goûté à la bonté du Seigneur et on veut plus de lui. On est le peuple qui veut plus de Jésus, qui a une obsession permanente. Jésus, notre trésor. La métaphore que Pierre nous donne est celle d'une maison. Jésus est cette pierre vivante. Alors moi, je n'ai jamais vu de pierre vivante. Je suis content que ma maison est construite de pierres plutôt mortes qui ne bougent pas. Alors il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une métaphore. Cette maison n'est pas un bâtiment physique. L'Église n'est jamais un bâtiment physique. Alors c'est Jésus qui est vivant. Et cette vie, nous la voyons à la résurrection. Les hommes ont rejeté cette pierre vivante. Ça, c'est ce qu'on voit à la croix. Le rejet terrible de l'humanité qui tente de mettre à mort son Créateur. Mais Dieu qui est souverain l'a ressuscité. Lui, Jésus, qui est choisi, qui est honoré du Père. Et cet honneur, on le voit le jour de Pâques. On le voit le jour de l'Ascension. Jésus a été rendu vivant. Il a été ressuscité, justifié, réhabilité, glorifié pour être au Père, à la droite du Père. Et si nous sommes, nous aussi, des pierres vivantes, c'est parce que nous avons été unis à Jésus-Christ, collés à lui, construits sur lui. Jésus est lui-même la résurrection et la vie, c'est ce qu'il nous a dit lui-même. Le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même et de donner cette vie aux hommes. L'Église est vraiment le peuple de Jésus-Christ, rendu vivant par lui. Ceux qui forment vraiment l'Église sont ceux qui ont pour obsession, si je puis dire, Jésus. Ce n'est pas simplement ceux qui viennent aux réunions de l'Église, c'est ceux qui ont pour obsession Jésus-Christ. Jésus-Christ est leur trésor. Jésus-Christ les a rendus vivants. Lorsque nous pensons à l'histoire humaine, lorsque nous pensons à la condition humaine, cette vie qui est si courte, la mort, le péché, la condamnation devant Dieu. Alors Jésus change la donne. C'est lui la pierre vivante. Un homme vraiment vivant qui vivifie. Et l'Église, les pierres vivantes sont construites sur lui seul. En quelque sorte, cette pierre vivante est un pavé dans la mare, un pavé dans la mare de la vie et l'histoire humaine. En quelque sorte, Dieu a jeté un pavé dans la mare qui a créé d'énormes vagues, si bien qu'on ne peut rester indifférent à Jésus-Christ. On le voit au verset 6 et 7. Pierre cite un passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 28. Il le fait pour nous montrer que Jésus ne vient pas de nulle part. Jésus n'est pas un simple plan bis pour Dieu, mais vraiment le plan de Dieu depuis toute éternité. Dans un passage qui annonce le jugement à venir sur un ennemi d'Israël, Dieu annonce qu'il va mettre une pierre dans Sion. C'est intentionnel, c'est Dieu qui le fait. Dieu choisit cette pierre et très consciemment, il la met au milieu de son peuple, le peuple d'Israël. Alors, ce n'est pas n'importe quelle pierre, mais une pierre angulaire. Une pierre angulaire fait l'angle du bâtiment, c'est la pierre sur laquelle tout l'édifice est construit. En Christ, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de bâtir quelque chose de nouveau. Alors cette pierre, on le voit, suscite seulement deux réponses. La foi au verset 6 et la désobéissance au verset 7. Est-ce que vous voyez ça? La foi en Christ ou la désobéissance à la parole qui parle de Christ? Jésus est un véritable pavé dans la mare, en quelque sorte. On ne peut pas lui rester indifférent à celui qui s'accroche à lui, qui met sa confiance en lui. Ésaïe nous dit qu'il ne sera pas rendu honteux. En fait, ce croyant connaîtra le même honneur que Jésus. Et là, Pierre pense probablement à la résurrection d'entre les morts, la vie éternelle. Tel maître, tel disciple. La pierre vivante rend vivant ceux qui s'accrochent à lui. Mais ceux qui le rejettent, peut-être même fièrement, peut-être en méprisant les chrétiens, connaîtront la honte. Au verset 7, Pierre cite un autre passage de l'Ancien Testament, le psaume 118. C'est un psaume qui parle du roi d'Israël, qui s'est fié à l'Éternel et qui revient victorieux d'une bataille avec ses ennemis. Et ensuite, on lit à ce verset qui est un peu énigmatique, « La pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Dans le psaume 118, ceux qui rejetaient le roi étaient ses ennemis étrangers. Mais des années plus tard, Jésus a repris ce verset sur ses propres lèvres pour dire que ce verset se réfère à lui, le roi. Et il disait que ceux qui le rejetaient étaient des responsables de la nation juive. On le voit dans la parabole des vignerons. Jésus disait qu'il cherchait à construire la nation religieuse, la vie religieuse du pays, sans lui, contre lui. Et en faisant cela, il le faisait en vain. Et Jésus est-il devenu pour eux une pierre d'achoppement? C'est ce qu'on voit dans la suite de ce passage. C'est une citation d'Ésaïe 8. Jésus est un rocher qui fait tomber, qui fait trébucher. Jésus est cette pierre incontournable. Soit on est construit sur lui pour vivre, pour la vie éternelle. Soit on trébuche contre lui, consciemment ou inconsciemment. Et on le voit aujourd'hui encore, on peut essayer de construire nous-mêmes notre vie religieuse ou simplement une vie où on se sent bien. C'est vrai, l'homme est insatiable, il veut toucher le divin, le transcendant, il veut se sentir en paix avec lui-même. Il construit des temples, il invente des stratagèmes pour se sentir plus proche de Dieu, pour se sentir en paix avec lui-même, avec des rituels, avec des lois, avec des liturgies, avec des médiateurs, avec des saints. On peut le faire de manière religieuse comme on peut le faire aussi de manière séculière, de manière athée dans un sens. Mais c'est Jésus qui compte. Jésus dit qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu, l'unique. La soumission radicale à Jésus-Christ, c'est ça la foi. Et ça gêne, n'est-ce pas? Ce n'est pas un message qui passe comme une lettre à la poste. Même parmi ceux qui, peut-être de manière religieuse, disent qu'ils sont chrétiens, le fait que Jésus soit l'unique manière de venir au Père est gênant. Alors peut-être que vous aimez l'Église. Peut-être que vous venez parce que ça vous donne une certaine paix. Vous aimez les chants. Vous aimez peut-être l'école du dimanche pour vos enfants. Mais est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez plié le genou devant lui, devant Jésus-Christ? Est-ce qu'il est devenu votre trésor, votre obsession glorieuse? Alors ne le gardez pas à distance, mais approchez-vous de lui. Approchez-vous de Jésus, celui qui est le roi puissant, le roi saint, mais un roi qui est profondément bon, un roi qui est profondément généreux. Ce roi peut vous rendre vivant, c'est la pierre vivante. L'Église est fondamentalement le peuple de Jésus-Christ, rendu vivant par lui, qui vit par lui et de lui. Et ça, qui que nous soyons, quel que soit notre arrière-plan, que nous soyons d'arrière-plan juif ou non-juif, que ce soit des hommes, des femmes, plus âgés, jeunes, qu'on ait grandi dans l'Église ou qu'on ait venu très récemment à l'Église. En fait, ce qui compte, c'est la foi en Jésus-Christ. Pierre nous rappelle ces choses parce qu'il veut que nous n'ayons pas, que nous n'ayons pas honte de Jésus dans ce monde où on ne se sent plus vraiment chez nous. La vie chrétienne n'est pas facile. Tout comme Jésus a été rendu honteux, le chrétien suit sur le même chemin. Il est exposé à la honte. Mais il faut qu'on sache qu'on a été rendu vivant par Jésus. Et de manière ultime, on connaîtra le même honneur que lui, la résurrection. Oui, il y a des personnes qui se targuent de s'opposer à Jésus-Christ, à notre témoignage. Mais Pierre ajoute à la fin du verset 8 que c'est à cela qu'ils ont été destinés. Oui, c'est parfois dur, mais Dieu est souverain. Dieu reste le maître de l'univers. Ne perdons pas courage. Vous, comme Jésus, êtes choisis, destinés à l'honneur, grâce à cette pierre vivante qui vous a rendu vivant. Nous sommes le peuple de Jésus. Et partout dans ce passage, on voit aussi que nous sommes le peuple authentique de Dieu notre Père. Ce passage est imprégné de beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Pierre parle de temple, de sacrifice, de prêtre. C'est un passage qui creuse l'Ancien Testament. Et Pierre le fait pour nous montrer que l'Église n'est pas juste un truc en plus, le plan bis de Dieu à la fin de l'Ancien Testament, mais l'Église est vraiment le vrai accomplissement de tout ce que Dieu est en train de faire dans l'univers depuis le début de l'histoire. Tout ce qu'il était en train de faire en Israël. La nature de l'Église est vraiment époustouflante. En Christ, par la foi, l'Église est vraiment le peuple de Dieu. L'Église, nous dit Pierre au verset 5, est un groupe de prêtres saints ou une sainte prêtrise. Le verset 9 parle d'une prêtrise royale. Alors c'est toute l'Église qui forme cette prêtrise. Ce n'est pas juste une classe de chrétiens à part. Chaque pierre vivante ensemble. Nous voyons au verset 5 que nous sommes également une maison spirituelle habitée par le Saint-Esprit, un temple du Saint-Esprit. Et Pierre prend des grandes caractéristiques du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Il déclare que l'Église est l'accomplissement de ces choses. Au verset 9, qu'est-ce qu'il fait? Il cite Exode chapitre 19, un chapitre important dans l'Ancien Testament, où Dieu parle à son peuple. Juste avant les 10 commandements. Et Pierre déclare que tous ceux qui ont été rendus vivants par Christ, cette pierre vivante, ce pavé dans la mare en quelque sorte, les croyants juifs comme les croyants non-juifs, forment aujourd'hui le peuple authentique de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes sa prêtrise royale. Nous sommes sa nation sainte. Nous sommes un peuple qui est sa propriété personnelle. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas simplement l'Église universelle. C'est aussi l'Église locale, l'Église de la Garenne-Colombes. Nous sommes à lui. Nous sommes la sienne. Est-ce que l'Église est aussi précieuse à vos yeux qu'elle est aux yeux de Dieu? Notre manière de traiter l'Église locale révélera à quel point nous voyons l'Église locale de la même manière que Dieu. Oui, nous n'avons pas un temple à Jérusalem. Nous n'avons pas de sacrifice d'animaux. Nous n'avons même pas une belle église comme celle, bel bâtiment comme celui sur la place du marché à la Gagne-Colombe, juste une salle polyvalente. Nous n'avons pas de prêtre enrobé. Mais en fait, nous n'en avons pas besoin. Nous avons ce vers quoi ces choses dans l'Ancien Testament pointaient. Nous n'avons pas besoin d'un temple, nous n'avons pas besoin d'un beau bâtiment parce que nous sommes le bâtiment. Nous sommes le temple. Nous n'avons pas besoin d'un prêtre en soutane parce que nous sommes tous cette sainte prêtrise. Dans un monde où on n'est plus chez nous en quelque sorte, où on ressent notre faiblesse, peut-être même le mépris, peut-être le mépris du protestantisme en France qui est si faible. Alors c'est un peu tentant de vouloir revenir un peu à ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et nous revêtir de la religiosité respectable, qui est compréhensible pour les gens du monde. Des temples, des robes, ce théâtre liturgique. Mais en fait, nous n'avons pas besoin de ces choses, parce que nous sommes nous-mêmes la réalisation de ces choses. Nous sommes en Christ la réalisation de ces choses. La prochaine fois que nous serons tentés de rouspéter contre l'Église, de ne venir peut-être qu'une fois sur deux, ou tout simplement de déprimer face à la faiblesse de notre Église, nous devrons nous rappeler la grandeur de la nature de notre Église, de l'Église universelle, comme l'Église de la Garenne-Colombe. Elle est à Christ. Elle est sa propriété personnelle. Elle est son temple. Est-ce que je vais dire du mal de sa propriété personnelle? Est-ce que je vais faire du mal à sa sainte prêtrise? Est-ce que je vais négliger ce temple spirituel? Pierre veut que nous comprenions toute la splendeur de la nature de l'Église. Oui, nous sommes bien faibles, c'est vrai. Nous sommes peu de choses aux yeux de ceux qui aiment la religiosité. Peu de choses aux yeux des prêtres du sécularisme, en quelque sorte, des valeurs de l'État. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Nous sommes sa propriété personnelle, à toujours. Le verset 10 conclut en faisant allusion à un autre prophète dans l'Ancien Testament, à Osée. Et Pierre nous dit, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant la compassion de Dieu. Si nous allons remplir la vocation de l'Église, et ça c'est notre deuxième point, en fait on a besoin de ressentir, de saisir, de nous émerveiller devant la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous, l'Église. Alors quelle est cette vocation ? On a déjà un peu touché à ce thème. Au verset 5, nous voyons que nous sommes une prêtrise qui offre des sacrifices spirituels par le Saint-Esprit. Nous avons la vocation d'adorer Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu nous a formés en tant que peuple pour être ses adorateurs. Jésus avait dit une fois à une femme samaritaine qui voulait savoir s'il fallait adorer Dieu dans le temple à Jérusalem ou dans un autre temple en Samarie, il lui a dit qu'un temps venait quand les adorateurs authentiques allaient adorer le Père en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'un temple physique pour offrir des sacrifices animaliers. Nous n'avons pas besoin de beaux temples qui servent de lieux de culte. Mais cette vocation d'adoration qu'on voit dans l'Ancien Testament, on voit que c'est réalisé dans l'Église et réalisé en Christ. On le voit au verset 5. Nous voyons que nous offrons des sacrifices spirituels qui sont agréés de Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sacrifice parfait, auquel tous les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient. C'est lui le sacrifice qui nous a rendus vivants. C'est lui le sacrifice qui nous a réconciliés au Père. C'est lui le chef prêtre qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui la pierre angulaire de ce temple. Et nous nous approchons de Dieu en nous approchant de Jésus. Nous louons Dieu en nous approchant de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. De nous-mêmes, on n'a rien à offrir à Dieu. Il n'y a rien en nous qui sera agréable à Dieu. Mais nous venons devant lui les mains vides par la foi. Dieu veut qu'on vienne comme ça, dans l'humilité, en nous accrochant non pas à nos œuvres, en nous accrochant non pas à nos chants, à nos prières, mais en nous accrochant à Jésus seul. Et cette foi-là, cette foi humble qui s'accroche à Jésus seul, c'est cette foi-là qui le glorifie. Mais la grâce que nous avons en Jésus, cette compassion qu'il nous a montrée, fait jaillir un chant nouveau, un chant de reconnaissance. Nous chantons, nous qui autrefois n'étions pas un peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas obtenu compassion, nous avons maintenant obtenu la compassion de Dieu. Alors comment est-ce qu'on va chanter ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'offrir ces sacrifices spirituels? Quelle est notre vocation exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 9, Pierre nous dit que la vocation du peuple de Dieu, c'est de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On remplit notre vocation en tant qu'Église en déclarant haut et fort combien notre Dieu est bon, combien il est rempli de compassion à l'égard de pécheurs perdus. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Par des chants à l'Église? Oui, en partie. Mais l'accent dans ce passage, et peut-être même l'accent dans le Nouveau Testament, n'est pas sur ce que nous faisons le dimanche matin. Le souci de Pierre n'est pas de faire de nos rencontres d'Église des mini-temples de Jérusalem. Il veut plutôt que nous soyons l'Église pour le monde, pour ce monde qui nous entoure. Et nous allons voir ça dans la suite de ce chapitre. Nous sommes des prêtres dans ce monde, des prêtres pour ce monde, en y proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle d'un Seigneur qui est le Sauveur. Nous louons Dieu en partageant l'Évangile autour de nous. Dieu nous a placés dans ce monde où on n'est plus chez nous pour être ses témoins, pour dire haut et fort qu'il est là, qu'il est bon, qu'il est rempli de compassion à l'égard de pécheurs perdus. Alors si on ne le fait pas, si on se tait, on rate la vocation de l'Église. Alors personne ne dit que c'est facile, hein? Loin de là. Il faut savoir que cette adoration, ce témoignage, vient d'une connaissance, d'une conviction de qui nous sommes en Christ, de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Cette adoration, ce témoignage coule de la source qui est la grâce. Si nous allons proclamer avec fidélité ces louanges à ceux que nous allons voir demain au travail, à la fac, à l'école, avec ceux que nous allons croiser, avec ceux avec qui on va discuter dans la semaine, nous avons besoin de réaliser à quel point la nature de l'Église est glorieuse. À quel point nous sommes à lui par la grâce seule, en vertu de sa compassion seule. Nous sommes tous conscients de notre faiblesse, du mépris du monde. Mais quand on médite sur ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait dans l'Église, la joie jaillit. L'envie de lui rendre gloire jaillit. L'envie de dire aux autres combien il est bon jaillit. Dieu nous envoie à la fin de cette rencontre d'Église pour être ses prêtres dans la société. Des prêtres qui disent haut et fort combien il est bon, combien il est rempli de compassion. Alors j'anticipe un peu sur le message de la semaine prochaine, mais j'aimerais vous inviter à lire les deux versets suivants, donc les versets 11 et 12, donc du passage suivant. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. On va voir ça en plus de détails la semaine prochaine. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il reviendra. Alors nous sommes également des prêtres demain au travail, à la fac, à l'école, à la maison, des prêtres qui exaltent Christ, qui l'exaltent aux yeux des non-croyants en vivant autrement. Nos vies tout entières sont des sacrifices vivants qui témoignent, qui plaident en faveur de ce message de vie, ce message de Jésus. L'emballage pour notre message, le message de l'Évangile, c'est l'Église. Et l'emballage n'est pas juste un emballage à jeter. En fait, cet emballage est très important. Il est très lié au message, il communique quelque chose, il témoigne en faveur du message, il rend crédible le message. En quelque sorte, on ne peut pas, on a du mal à séparer les deux, même si les deux choses sont distinctes. Nous voulons adorer notre Père en esprit et en vérité, par ce que nous allons dire et par notre manière de vivre pour lui. Et on le fait en tant qu'Église, c'est ça notre mission. Cette adoration à laquelle notre Père nous appelle en tant qu'Église locale, c'est la proclamation fidèle de l'Évangile par une Église qui vit dans la fidélité à l'Évangile. Les deux choses vont ensemble. La proclamation fidèle de l'Évangile par une Église qui vit de manière fidèle à l'Évangile. Voici notre vocation glorieuse. Voici notre mission en tant qu'Église. Et pour le faire, on a besoin de revenir sans cesse à Jésus-Christ, la pierre vivante qui est en train de nous construire en lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de goûter semaine après semaine à sa bonté. On a besoin de l'avoir comme trésor. Nous sommes bien faibles, bien peu de choses aux yeux du monde. Mais Dieu nous a donné une nature grandiose, une vocation glorieuse. On va demander à Dieu dans la prière de nous aider à vivre cette vocation cette semaine, à nous rendre compte de la nature de qui nous sommes devenus en lui. Notre bon Père Céleste, merci de nous avoir, d'avoir fait de nous un peuple, nous qui n'étions pas ton peuple. Merci de nous avoir montré l'ampleur de ta grâce, l'ampleur de ta compassion, en nous collant à Jésus-Christ, en nous unissant à Jésus-Christ pour avoir la vie. Merci pour le privilège d'être ton peuple, ton Église à la Garenne-Colombe. Merci pour le privilège d'être ici, ta sainte nation, ta sainte prêtrise. Père, aide-nous à réaliser la nature glorieuse de l'Église, le privilège d'être à toi. Et fort de cette connaissance de la grâce, aide-nous à proclamer tes louanges. Entre nous d'abord, peut-être, mais d'abord, peut-être avant tout, à ceux qui ne te connaissent pas, ceux que nous allons voir demain au travail, à la maison, à la fac, dans la rue. Aide-nous à proclamer avec fidélité tout ce que tu as fait, ta compassion à l'égard de pécheurs perdus. Et aide-nous à le faire d'une manière digne de toi. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.